France Culture.
Apollon, poursuivant Daphné de Nicolas Coustou, les lutteurs de Philippe Magnier, le soldat de marathon annonçant la victoire par Jean-Pierre Cortot, la renommée à cheval sur Pégase d'Antoine Coïcevox, tous seront là demain soir au grand dîner organisé par le musée du Louvre dans la cour Marly. Poursuivre, lutter parfois, triompher pour enfin bénéficier d'une certaine renommée, voilà aussi résumé le parcours des institutions auprès de potentiels mécènes. Car cet événement mondain, ce fameux dîner au Louvre, et bien sûr aussi une levée de fonds en bonne et due forme. Les 30 tables proposées à la vente ont trouvé preneur, permettant d'atteindre leur objectif. Plus d'1 million d'euros ont été ainsi récoltés. Les amis et mécènes du Louvre qui ont ainsi mis la main à la poche pourront se réunir demain grâce, comme le soulignent les communiqués de presse et autres éléments de communication, grâce donc au soutien financier et à l'engagement d'une marque bien connue de cartes de crédit. Car derrière les personnalités et mécènes charismatiques, près de 170 000 entreprises se réclament également de ce statut de mécène, un statut, un rôle relativement nouveau qui dans les années 80 se légitimise et prend progressivement la forme d'une évidence pour tous les concernés, États, entreprises et artistes. Si un tel engagement financier peut surprendre venant d'entités qui n'ont souvent que peu à voir avec le secteur dans lequel elles dépensent ainsi une partie de leurs recettes, c'est en réalité un comportement devenu rationnel au cours des 40 dernières années qui s'impose aujourd'hui, au risque bien sûr de voir la rationalité du privé supplanter celle du public et surtout de voir la réputation devenir une monnaie d'échange favorisant les grandes institutions au détriment des plus petites qui peinent à prendre le tournant de la professionnalisation du mécénat et donc à suivre la course aux dons. Alors pourquoi les entreprises se sont-elles tournées vers le mécénat et pourquoi cette charité bien ordonnée a-t-elle été largement encouragée? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui dans cette émission programmée et préparée par Diane Devancet, réalisée par Françoise Le Floch et mise en monde par Alex Danker. Et deux invités sont avec nous aujourd'hui. Sabine Rosier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris-Dauphine. Vous êtes membre de l'IRISO, l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales. Et vous êtes spécialiste du mécénat culturel. C'est bien, ça va nous intéresser grandement aujourd'hui. Également avec nous en studio, Arthur Gauthier. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes professeur associé à l'ESSEC Business School et titulaire de la chaire philanthropie de l'ESSEC. Donc vous êtes le co-auteur avec Peter Frumkin et Anne-Claire Pache d'un ouvrage « Vers une philanthropie stratégique » paru en 2020 chez Odile Jacob. Odile Jacob qui a par ailleurs publié un autre de vos ouvrages écrit à de multiples mains « Les mots qui disent la philanthropie » paru l'année dernière. Alors selon les derniers chiffres de l'Admical publiés en décembre dernier, entre 2018 et 2023, le nombre d'entreprises déclarant des dons a été multiplié par 1,8 et le montant des dons déclarés par 1,4 pour atteindre le chiffre de 3 milliards d'euros donc en 2023. On le disait en introduction, cela concerne 170 000 entreprises. Arthur Gauthier, on parle de dons, d'investissements, de dépenses d'un point de vue strictement comptable et pour y voir plus clair, à quoi correspond le mécénat pour une entreprise ?
Le mécénat, c'est effectivement le domaine du don, c'est-à-dire que ce sont des dépenses qui vont être octroyés à des organismes d'intérêt général, que ce soit des associations, des fondations ou des établissements publics, et qui ne vont pas faire l'objet d'une contrepartie matérielle équivalente, contrairement à ce que pourrait être, par exemple, le parrainage, le sponsoring, où là, l'entreprise bénéficie d'une visibilité, d'une valorisation de la marque. Dans le mécénat, il doit y avoir cette absence de contrepartie, ou plutôt cette disproportion entre ce qui est donné et ce qui est éventuellement octroyé aux mécènes en termes de reconnaissance.
D'où le fait, puisqu'il n'y a pas cette contrepartie, ou en tout cas pas rationnelle, ou en tout cas pas forcément matérielle, d'où le fait que ce ne soit pas considéré comme un investissement dans le bilan comptable des entreprises.
Voilà, ce n'est pas un investissement. C'est généralement traité différemment des autres dépenses de communication, parce que justement, le mécénat peut faire l'objet d'une réduction d'impôts pour les entreprises qui choisissent de procéder à ces réductions d'impôts. On y reviendra, j'imagine. Mais effectivement, ça reste dans l'ordre du don. C'est un peu l'équivalent pour les entreprises de ce que va être le don ou la philanthropie pour les particuliers.
Sabine Rosier, quand on voit le nom de grandes marques accolées à celui d'événements comme, entre autres, ce fameux grand dîner au Louvre qui aura lieu demain soir, ou à des expositions, voire des salles de musées, alors plutôt dans les cas américains, on est en droit de se demander quand même ce qui distingue fondamentalement le mécénat du sponsoring. Est-ce qu'il y a des conditions spécifiques à remplir pour qu'on puisse véritablement parler de mécénat et potentiellement de fait bénéficier de cette fiscalité dont on va reparler bien sûr?
Comme l'a dit Arthur Gauthier, effectivement, la spécificité du mécénat, c'est qu'il s'inscrit sur le long terme. Il se veut plus désintéressé, mais c'est une vision un peu irénique et un peu enchantée du mécénat que de dire qu'il est totalement désintéressé sans contrepartie, parce que les contreparties sont bel et bien là, mais elles sont moins tapageuses, moins bruyantes, moins ostentatoires ou ostensibles que celles qui sont associées au sponsoring ou au parrainage. Alors, pour sécuriser fiscalement les dons, et autoriser les mécènes à pouvoir obtenir une défiscalisation, le fisc a décidé d'octroyer ce qu'on appelle un rescrit fiscal, c'est-à-dire une sorte d'agrément qui autorise les entreprises à défiscaliser le montant du don à la condition qu'elles respectent un certain nombre de conditions que l'État juge obligatoires pour que ce soit considéré comme du mécénat. Donc il faut que ça serve l'intérêt général, il ne faut pas que ça profite à un cercle restreint de personnes, il faut que la dépense soit à but non lucratif, etc. etc. Et donc on a, c'est pas du sponsoring, c'est pas du parrainage, mais néanmoins les contreparties sont bel et bien présentes.
Et on le voit, des garde-fous sont aussi présents, une idée au moins de régulation, puisqu'on va le voir, notamment cette incitation fiscale a donné lieu potentiellement à au moins des possibilités de dérive. On va voir si elles ont été empruntées ou non, pour avoir un panorama aussi un peu plus complet, Arthur Gauthier, de ce que représente le mécénat, et notamment en France aujourd'hui. On apprenait encore une fois, grâce à ce baromètre de l'Admical de décembre dernier, que 97% des entreprises mécènes sont des TPE et PME, ce qu'on n'a pas forcément en tête. On a plutôt cette image qui est très ancrée de très grandes entreprises qui de fait font des dons à de très grandes institutions, mais tout de même nuancé par le fait que 5/6 des grandes entreprises sont mécènes en 2023, et cela fait un total de 9% d'entreprises qui sont bel et bien mécènes en France. Très concrètement, à quoi tient cette décision de devenir mécène quand on voit qu'il y a un peu cette dualité entre TPE-PME et très grandes entreprises, une dualité qui est aussi exprimée dans les sommes qui sont de fait mises sur la table? Qu'est-ce qui motive les entreprises? Est-ce que c'est effectivement cette idée qu'on a commencé à évoquer d'une rémunération presque réputationnelle, Arthur Gauthier?
Il y a toute une recherche en management et en sciences sociales sur les motivations du don. Je pense que ce qui est intéressant ici, c'est de voir en quoi le cas spécifique de l'entreprise, du mécénat d'entreprise vient nous éclairer sur ses motivations. C'est vrai que quand tout à chacun donne, on a un mélange de motivations qui vont de l'acte vraiment altruiste, par empathie pour l'autre, à des calculs plus ou moins égoïstes sur combien ça va me rapporter en termes de réputation sociale à titre personnel, ou le sentiment d'avoir bien agi, d'être une bonne personne, c'est une forme de récompense psychologique, et aussi le fait de respecter des normes, des valeurs dans la société dans laquelle on appartient. Pour les entreprises, ce qui est un petit peu différent, c'est que c'est pas uniquement l'argent du dirigeant d'entreprise qui est en jeu, c'est un budget d'une entreprise qui est par définition une aventure collective qui appartient à des actionnaires, qui à des salariés, des clients, des fournisseurs, et donc qui implique finalement beaucoup de monde. Et donc dans les motivations des dirigeants finalement d'entreprise, la recherche nous aide à y voir un peu plus clair. Il y a un certain nombre d'études qui ont montré que au départ, on pensait que le mécénat c'était plutôt une volonté personnelle du dirigeant de se faire plaisir, d'utiliser des ressources de l'entreprise à des fins de caprices personnels. On parle notamment souvent de l'expression « la danseuse du président ». Vous aurez peut-être ça dans vos archives tout à l'heure. Mais l'idée était que, selon les préceptes d'ailleurs de la théorie de l'agence en économie, les dirigeants faisaient un peu ce qu'ils voulaient parce que les actionnaires ne contrôlaient pas assez la manière dont les ressources supplémentaires de l'entreprise étaient utilisées. En fait, on se rend compte que depuis une vingtaine d'années, la plupart des recherches montrent qu'il y a un vrai intérêt stratégique et bien compris des entreprises d'utiliser du mécénat. D'abord parce qu'il faut parler de toutes les parties prenantes de l'entreprise. Côté salarié, ça peut être une source de motivation, de fierté.
De sens au travail aussi.
De sens au travail, ça peut être aussi un facteur d'attractivité pour des jeunes diplômés qui sont en quête de sens. C'est aussi une question de loyauté ou de fidélité des clients, des consommateurs qui peuvent préférer une marque qui a un comportement vertueux plutôt qu'une autre. Et c'est aussi une façon de nouer des bonnes relations avec les pouvoirs publics. Hein. On parle parfois de license to operate, de droit d'opérer dans certains marchés, certains pays. Le fait de faire du mécénat montre aussi la bonne volonté de l'entreprise. Donc effectivement, il y a des enjeux réputationnels, des enjeux de bonnes relations avec les parties prenantes. Et in fine, je pense que le calcul qui est fait, même s'il n'est pas direct, sonnant et trébuchant, c'est d'améliorer la performance globale de l'entreprise dans son environnement comme un acteur parmi d'autres d'une société ou d'un pays donné.
Vous avez parlé de calcul, on voit aussi qu'il y a une forme de rationalisation aussi de la façon dont on alloue cet argent, ces dépenses-là, et donc qui se transforment de fait en dons. On rentre donc pleinement dans le sujet de notre homo economicus du jour dont on parle tous les lundis ici dans Entendez-vous l'écho. Sabine Rosier, juste pour compléter ce panorama-là, on a dit 3 milliards d'euros de dons en 2023 selon les chiffres de décembre 2024. Est-ce que c'est une somme importante, comme 3 milliards en termes de financement de différentes associations? Est-ce que c'est crucial? Est-ce que c'est une somme qui est importante, mais peut-être pas tant que cela? Comment la situer?
C'est pas très élevé si on la compare avec la situation nord-américaine où la philanthropie est beaucoup plus massive et beaucoup plus importante. Mais néanmoins, c'est le produit d'une augmentation quand même assez sensible des dons, à la fois des particuliers et des entreprises au cours de ces 20 dernières années, qui n'est pas négligeable. Même s'il faut avoir l'esprit qu'en France, la plupart des dépenses sociales, des dépenses éducatives, des dépenses de santé sont socialisées, mutualisées, sont financées par l'impôt, on a les services publics et donc le niveau de dépenses publiques dans notre pays est très élevé et les entreprises contribuent à l'intérêt général autrement que par la philanthropie, de façon bien plus importante, par l'impôt tout simplement. Et donc ces dépenses qui sont financées par l'impôt sont sans commune mesure néanmoins avec le montant du mécénat.
Et de façon générale, effectivement, la comparaison avec les États-Unis risque d'être relativement difficile, dans le sens où on va le voir, l'histoire aussi et cette tradition de la philanthropie n'est pas nécessairement la même qu'en France. Arthur Gauthier, vous souhaitiez réagir?
Oui, c'est simplement pour compléter ce que disait Sabine Rosier. Aujourd'hui, quand on voit le budget cumulé de tous les dons, que ce soit mécénat des entreprises et particuliers, on est à un peu plus de 9 milliards d'euros par an. Et tout secteur confondu. Et si on regarde les entreprises, dans le meilleur des cas, si on additionne les dons déclarés et les dons non déclarés, on est à 3,8 milliards d'euros. Oui. Le budget du ministère de la Culture dans la loi de finances initiale 2025, c'est 4,8 milliards d'euros. Le budget de l'éducation nationale, c'est 87 milliards d'euros. Voilà, il faut juste garder les ordres de grandeur en tête avant de se dire que le mécénat a un poids énorme dans notre société. En revanche, il est très important pour certaines associations, organisations culturelles, on y reviendra, qui dépendent de manière presque atypique, quand on voit l'économie des associations aujourd'hui, à plus de 60, 70, 80% pour certaines d'entre elles, des dons privés. Là où ces dons privés ne représentent que, je crois, 5% dans le budget global des associations en France.
Sabine Rosier.
Et une petite précision sur ces 3 milliards d'euros, la moitié ou 40% à peu près ne sont pas défiscalisés par les entreprises. Si on s'en tient aux dépenses fiscales, c'est-à-dire aux exonérations d'impôts que les entreprises s'autorisent à obtenir en contrepartie de leurs dons, ça équivaut à 60% de cette somme. Il y a une entreprise sur deux qui, pour des raisons différentes, ne défiscalise pas, méconnaissance du dispositif, volonté tout simplement de faire un don sans contrepartie fiscale. Et c'est la raison pour laquelle les chiffres de l'ADMICAL sont sensiblement supérieurs à ceux qui sont proposés par le fisc, l'ADMICAL étant l'association dont on en parlera tout à l'heure pour le développement du mécénat industriel et commercial, qui est le promoteur inlassable du mécénat depuis une trentaine d'années en France.
Une association qui a effectivement beaucoup compté dans la construction aussi de ces liens entre entreprises devenues mécènes et acteurs publics et institutionnels. On va voir que ça a été un véritable maillon, en tout cas une façon d'établir le lien. Ce qui est intéressant aussi, Arthur Gauthier, c'est que cette montée en puissance, parce qu'on l'a dit en fait depuis le début de cette émission, ce sont des chiffres, alors pas forcément en train d'exploser, mais relativement en constante hausse, la dynamique elle va dans ce sens-là, c'est indéniable. Cette montée en puissance-là de l'argent privé venu en soutien de certaines activités, et a fortiori culturelle, elle ne s'est pas faite en un jour, et puis surtout, contrairement à ce qu'on pourrait penser aujourd'hui de façon assez intuitive, elle n'a rien de naturel. Si 5/6 des grandes entreprises sont aujourd'hui mécènes, ce n'est pas nécessairement un hasard. Ce sont
essentiellement des patrons d'industrie, on le disait, de grandes firmes qui se lancent au 19e siècle dans la toute première forme de mécénat, qu'il soit social ou culturel. Et la rationalité de la démarche est celle du patron qui le fait soit par goût culturel, soit parce qu'il a une certaine vision pour son entreprise qui relève du paternalisme. Mais à l'époque, pendant très longtemps, finalement, Arthur Gauthier, on ne peut pas vraiment parler de stratégie en soi. Ça relève plus du bon vouloir d'une personnalité spécifique.
Oui, exactement. Si on fait la longue histoire, on a en effet des cas de patrons qui, inspirés par leurs valeurs chrétiennes ou par des valeurs laïques, humanistes, prenaient des décisions individuelles, de fournir par exemple des services de crèche, d'éducation à leurs ouvriers. Alors c'était évidemment par conviction, mais c'était aussi pour préserver l'ordre social, pour éviter la montée des syndicats ou du socialisme. Mais il y avait cette fibre sociale qu'on retrouve encore aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup hein, dans certaines entreprises, notamment les TPE, les PME, les ETI, dont on reparlera, les entreprises de taille intermédiaire, où finalement la fibre personnelle, sociale du dirigeant compte beaucoup. Mais en effet, c'est cette première racine qui est intéressante. Et en effet, quand on regarde les archives, on voit aussi que certaines grandes entreprises, je pense notamment à Air France, Renault ou Ricard, ont aussi commencé à collectionner des œuvres d'art, à les acheter, à les exposer dans leur lieu, dans le siège de leur entreprise. Donc on a un petit peu ces deux racines-là, paternaliste d'un côté sur les œuvres sociales et plutôt artistique pour certaines commandes d'entreprise, qui explique un peu ces prémices du mécénat, mais qui va, comme on va le voir, va vraiment prendre une nouvelle ampleur à partir des années 70-80.
Et ampleur qui n'existe pas nécessairement à l'époque, parce que d'une part, on a compris que ça ne relevait pas forcément d'une stratégie, on va dire d'un axe très professionnel non plus de ces entreprises. Et puis par ailleurs, l'État n'est pas forcément très friand non plus de cette intrusion des patrons et de l'entreprise privée dans ces domaines-là.
La majorité d'ailleurs des patrons n'étaient pas non plus très friands. Quand on voit les communiqués de l'ancêtre du MEDEF dans les années 70, c'était clairement la culture, c'est le rôle de l'État. C'est pas à nous, chefs d'entreprise, de faire ça. Les entreprises, on attendait surtout d'elles qu'elles créent des emplois, qu'elles vendent des biens et des services, qu'elles payent leurs impôts, comme l'a rappelé Sabine Rosier, mais pas qu'elles soient des actrices du monde culturel ou de l'intérêt général. Et c'est seulement certains pionniers, certaines personnes influencées, on va le voir, par le modèle anglo-saxon notamment, suite à des voyages aux États-Unis, en Angleterre, qui se sont dit « Mais tiens, pourquoi on développerait pas ce mécénat d'entreprises culturelles en France ?»
Et de fait, c'est plutôt d'un œil méfiant donc que sont regardées les tentatives des patrons d'entreprises d'infiltrer le monde, entre autres, de la culture par son financement. Mais dans les années 80, voilà, toute fin des années 70, tout change, tout bascule, comme le raconte ce reportage de France 3 consacré à la Fondation Louis Vuitton pour l'opéra et la musique, créée le 23 mai 1986.
Un fabricant d'ordinateurs qui finance des courts-métrages, une entreprise de travaux publics qui donne de l'argent à Peter Brook pour monter sa dernière pièce à Avignon, le mécénat industriel se développe en France, avec du retard certes sur les États-Unis, cela tient à notre système fiscal, les entreprises françaises ne peuvent consacrer au mécénat qu'un millième de leur chiffre d'affaires, et encore à certaines conditions. Le ministre de la Culture, François Léotard, vient de promettre que le système serait assoupli. Véronique Bonnet.
Dernier membre du club des mécènes, la Fondation Louis Vuitton pour l'opéra et la musique, qui emmenait hier soir ses invités à Lille, à la première de la carrière du libertin de Stravinsky dans la mise en scène de Robert Altman. Budget prévisionnel de la Fondation, plusieurs millions chaque année dans des projets similaires, choisis par un comité artistique présidé par Rolf Liebermann. Parfaite illustration de la récente adhésion des entreprises françaises au mécénat. La preuve, en 85, 300 d'entre elles ont investi près de 350 millions dans des opérations artistiques. Une évolution due en grande partie à l'action de l'ADMICAL, l'Association pour le développement du mécénat industriel, dont les 6e assises viennent de se terminer.
C'est que la crise que nous vivons n'est pas une simple crise conjoncturelle, c'est une crise de société qui nous ramène à l'essentiel, qui nous place devant nos vraies responsabilités d'individus ou de collectivités. Et les entreprises comprennent, les plus intelligentes en tout cas, que ce n'est pas en gémissant ou en se repliant sur elles-mêmes qu'elles gagneront. C'est en étant offensives, en réfléchissant à leur identité, à leur langage, à leur rapport à la société, à leur rapport à la création, j'en reviens au thème des assises, qu'elles gagneront. Et c'est pourquoi, et je ne le dis pas ça pour les flatter, mais ce sont les entreprises dynamiques, les entreprises qui vont de l'avant, qui font du mécénat.
Sabine Rosier, on quitte là la préhistoire du mécénat, comme l'appelle Arthur Gauthier dans un de ses articles, puisqu'il se constitue en 1986, mais qui nous raconte finalement presque 10 ans d'évolution pour entrer donc dans une nouvelle ère, cette ère des années 70-80. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi on entendait, finalement, on va l'apprendre, mais Jacques Rigaud, pourquoi il nous parlait de crise véritablement à ce moment-là? De quoi prend-on conscience au niveau des entreprises?
1986, c'est une belle archive. On est quelques années après la création de cette association dont on a déjà parlé. Jacques Rigaud, ça va être le premier président de cette association. Il va rester 28 ans à la tête de l'association. C'est un homme assez singulier parce qu'il a été directeur de cabinet du ministre de la Culture, Jacques Duhamel, dans les années 70. Il est conseiller d'État. Il va être mis à la tête de l'établissement public du musée d'Orsay. Il dirige RTL aussi. Donc c'est aussi un homme d'entreprise, un homme de radio en l'occurrence. Et il est à l'interface de ces trois mondes où le mécénat va pouvoir éclore et se développer. Et il va contribuer à transformer le cadre fiscal et réglementaire du mécénat en se faisant l'avocat des entreprises qui le souhaitent. Mais il ne va pas être le seul, parce que l'ADMICAL a tendance à donner une image un peu héroïsée souvent de Jacques Rigaud en disant que ça a été l'essentiel, enfin l'unique avocat en France du mécénat d'entreprise. Mais il faut savoir que l'État lui-même était très intéressé, au sein de l'État, le ministère de la Culture en particulier, qui a beaucoup œuvré, notamment avec l'arrivée de Jacques Lang en 1980 à la tête de ce ministère, qui était un homme de théâtre, qui avait lui-même bénéficié dans le théâtre de Nancy de mécénat, donc il savait de quoi il parlait, et qui s'est dit, au moment où le budget de l'Opéra Bastille et du Grand Louvre grevait considérablement le budget du ministère de la Culture, tournons-nous vers les entreprises pour essayer de récupérer des recettes complémentaires qui pourraient être utiles au financement de nos projets culturels. Donc le ministère de la Culture a aussi été l'allié de Jacques Rigaud pour promouvoir le mécénat en France et permettre aux entreprises de disposer d'un cadre fiscal et réglementaire adapté.
Donc on le voit, il y a un homme, même s'il n'est pas seul, qui lance, on va dire, l'impulsion. On le voit, l'État, de façon générale, a plutôt intérêt à avoir cette forme de partenariat, je mets la plein de guillemets parce que les mots ont un sens, mais de partenariat se mettre en place. Cela étant, Arthur Gauthier, on a quand même envie de se demander d'où vient cette intuition, en tout cas cette idée-là de la part de Jacques Rigaud. Et puis surtout, et moi je trouve que c'est ce qui m'intéresse particulièrement, surtout pourquoi les entreprises, on comprend l'intérêt de l'État, mais pourquoi les entreprises se sont dit oui, à ce moment-là, on a besoin de redorer leur image. Est-ce que vraiment le début des années 80 est un moment de remise en cause de ce qu'incarnent les entreprises?
Oui, je pense qu'il faut rappeler un événement majeur qui date du 10 mai 1980, hein, c'est l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République en France. Il faut se rappeler que c'était une période de grande agitation dans les milieux d'affaires, puisque on avait des ministres du Parti communiste au gouvernement, il y avait des projets de nationalisation de grandes entreprises qui ont d'ailleurs eu lieu pour un certain nombre d'entre elles, et une volonté d'une intervention accrue de l'État dans l'économie, en tout cas dans les premières années, c'était comme ça que c'était perçu. Et un certain nombre de patrons d'entreprises, je voulais citer notamment le cas d'Alain-Dominique Perrin, qui a été le fondateur de la Fondation Cartier pour l'art contemporain, eh bien, se sont dit, il faut faire quelque chose, il faut finalement démontrer notre contribution à la société et n'être pas seulement que, on va dire, des entreprises capitalistiques qui veulent faire du profit, mais avoir finalement un lien, montrer notre respectabilité sociale, sociétale, et notamment en contribuant à la culture, puisque c'était finalement une manière, et là je cite Monsieur Perrin, hein, qui me pardonnera s'il nous écoute, que c'était une manière d'amadouer la gauche au pouvoir pour montrer aussi que l'entreprise pouvait être finalement une institution progressiste qui va dans le sens des nouvelles tendances de la société.
Alors vous avez parlé d'Alain-Dominique Perrin, pas sûr qu'il nous écoute, mais en tout cas nous, on va l'écouter.
Le mécénat, depuis ses origines d'ailleurs, n'a jamais été totalement désintéressé. De tout temps, les grands de ce monde ont cherché l'honneur pour récompense, ou le pouvoir, ou la justification d'un pouvoir. Et aujourd'hui, le mécénat, puisqu'on parle du mécénat d'entreprise, le mécénat est pour l'entreprise une démarche, disons, plus originale et plus raffinée, mais pour faire parler d'elle. Donc le mécénat est une forme de communication, est une nouvelle forme de communication.
C'est de la pub ?
Si vous voulez, c'est un peu de la pub, mais l'intérêt tout de même dans le mécénat, c'est qu'il y a réciprocité d'intérêt, parce que l'artiste y trouve son compte, l'État y trouve un financier nouveau, et l'entreprise y trouve une notoriété acquise, je trouve, de manière utile et intéressante. Le cas de Cartier est carrément trivial parce que nous sommes le plus gros mécène français et vraisemblablement un des 3 ou 4 plus gros mécènes européens. Nous avons ouvert la Fondation Cartier pour l'art contemporain à Julien Josas depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Et le budget global, si vous voulez, de dépenses de cette Fondation Cartier oscille entre 34 et 36 millions de francs.
Oui.
À peu près 3 millions par mois. Je parle de francs d'aujourd'hui. Donc c'est un budget énorme. J'estime qu'une entreprise internationale comme Cartier a toujours des besoins. Une entreprise a toujours des besoins. Une entreprise doit se développer, doit se faire mieux connaître et doit mieux s'inscrire, je crois, dans la société, dans son environnement. Et c'est très important pour l'image de Cartier. Je pense que c'est une façon de continuer à rajeunir Cartier, de continuer à inscrire Cartier dans les institutions d'aujourd'hui. Et je veux dire, c'est ça aussi la communication dite indirecte ou la communication au deuxième degré.
Voilà le témoignage, on va dire, d'Alain Dominique Perrin, là encore en 1986. Ce qui est intéressant, Sabine Rosier, c'est que là, c'est clairement assumé. Ça fait partie d'une stratégie. Le côté désintéressé est quand même clairement mis de côté. On attend des retours sur cet investissement, entre guillemets, que serait le mécénat. Mais très concrètement, jusqu'ici, les entreprises, là, on parle de Cartier, on a parlé de Louis Vuitton, ce sont de très grandes marques tournées vers le luxe. Donc, on peut comprendre le lien avec le monde de la culture. Jusqu'ici, même au milieu des années 80, les autres entreprises se laissent-elles aussi embarquer par ce discours-là ?
Elles sont embarrassées, en fait. Elles ont une attitude ambivalente. Dans certaines entreprises, les dirigeants vont être extrêmement circonspects en se disant « Mon Dieu, je risque d'être accusé d'abus de bien social, de divertir l'argent de l'entreprise au profit de quelque chose qui n'est pas dans son cœur de métier. » Et ce n'est que progressivement, sous l'effet du lobbying, pourrait-on dire, de l'ancêtre du MEDEF, et puis sous l'effet de la contagion exercée par un certain nombre de grands dirigeants, comme Alain-Dominique Perrin, que les entreprises vont se dire qu'elles ont intérêt, effectivement, à se lancer dans l'aventure. Alors au début, c'est notamment les entreprises du secteur public, des entreprises qui ont été récemment privatisées pour certaines et qui se disent que le fait d'entretenir de bonnes relations avec leur ancienne tutelle est quelque chose de bénéfique à l'entreprise. Les entreprises du luxe, bien sûr, qui vont être très attirées par la haute culture. Et puis des entreprises internationales qui vont dupliquer sur le sol national des pratiques qu'elles avaient déjà développées dans leur pays d'origine. Et donc on va avoir des pratiques de mécénat assez contrastées. Et ce qui est très intéressant, on évoquait tout à l'heure les contreparties, c'est que va progressivement se développer, c'est Anne Monnier qui a travaillé sur les associations d'amis américains qui l'a très très bien montré, une sorte de marché de la décoration, un marché des distinctions honorifiques républicaines, et les dirigeants d'entreprises, notamment étrangers, sont très friands de ces décorations, de ces éléments de distinction symbolique, qui leur assurent prestige, considération, et ça rejaillit sur l'image de l'entreprise.
C'est une façon de se légitimer aussi sur le territoire français, je l'imagine. Vous avez mentionné l'ancêtre du MEDEF, le Conseil National du Patronat français. C'est une question tout de même, Arthur Gauthier. Pourquoi l'ADMICAL a l'impression d'occuper un créneau finalement que personne d'autre n'avait occupé avant lui? Pourquoi ce n'est pas le MEDEF, ou enfin en tout cas ce fameux Conseil National du Patronat français de François Sérac puis d'Yvon Gattaz, qui en prend la tête en 80, qui se saisit de cette question-là? On aurait pu se dire que finalement, c'était une façon aussi de se renouveler pour un syndicat de patrons.
Oui, c'est très juste. Je pense qu'il faut revenir à ce que disait Sabine Rosier sur le risque d'abus de bien social. En fait, je pense que certains patrons étaient assez circonspects sur l'idée que c'était à eux de décider d'utiliser des ressources de l'entreprise pour faire des choses qui ne servent pas directement les intérêts de l'entreprise. Et effectivement, la vision, on va dire, totalement déconnectée du business, du mécénat, peut être vu comme finalement un caprice du dirigeant de faire quelque chose qui lui plaît à lui et qui n'intéresse pas nécessairement ses salariés, ses actionnaires. C'est pour ça que Alain-Dominique Perrin est très cash quand il parle d'image. Pour lui, c'est pour éviter ce risque d'abus de bien social, c'est important pour lui de montrer que Cartier va bénéficier d'un retour d'image en collectionnant notamment les coupures de presse de médias sur ce que va rapporter le mécénat, au moins en termes pas forcément quantitatif, mais qualitatif, à l'entreprise Cartier. Et c'est fort de ce retour médiatique qu'il peut dire à ses actionnaires, regardez, finalement, en faisant ce mécénat, je sers les intérêts collectifs de l'entreprise et pas seulement mes intérêts à moi en tant que patron, esthète, amateur d'art. Et donc, je pense que c'est aussi ligne de crête entre l'intérêt personnel du dirigeant et l'intérêt bien compris de l'entreprise qu'il faut emprunter. Et je pense que certaines entreprises étaient assez frileuses avant d'avoir des exemples concrets qu'ils pouvaient analyser.
Donc a priori, ce sont plutôt les grosses entreprises qui peuvent prendre ce risque, on s'en doute, puisque a priori, le chiffre d'affaires est plus important. Alain-Dominique Perrin, on l'a dit, crée la Fondation Cartier le 20 octobre 1984, il le mentionnait dans cet archive, mais il fait autre chose aussi, il ne se contente pas de cela, il rédige avec une quarantaine de jeunes diplômés de Cartier un rapport de 785 pages intitulé « Mécénat français » qu'il remet au ministre de la Culture de l'époque, François Léotard, et toujours dans cet archive de 1986, il explique justement comment il arrive à construire des liens avec la partie politique de cette histoire.
Il faut rendre hommage à deux personnes tout de même dans l'histoire du mécénat. D'abord Jacques Rigaud, actuel président d'un de vos concurrents, qui a été
RTL, même, par exemple,
RTL, ouais. Par exemple, qui a été un des promoteurs du mécénat d'entreprise en France. Il a créé une association qui s'appelle l'Admical. Je veux dire qu'il a réveillé, sinon le gouvernement, il a réveillé les entreprises en tout cas. Et puis il ne faut pas oublier Jacques Lang. Jacques Lang a eu une action de rapprochement entre la culture et l'entreprise très importante. Puis le troisième acteur, je pense le plus efficace pour l'instant, c'est François Léotard, car François Léotard a vraiment décidé de rapprocher le monde de l'entreprise et de la culture, et il est en train de le faire. Et le Sponcom qui s'ouvre demain est d'ailleurs l'illustration de ce rapprochement sérieux entre l'entreprise et la culture. Des avantages fiscaux, il y en a. Encore une fois, grâce au gouvernement précédent, Jacques Lang et Claude Mollard, son adjoint, ont amélioré un peu l'ordinaire. Mais des avantages fiscaux, dans mon rapport, évidemment, j'en demande plus, tout en démontrant que ça ne coûtera pas plus cher à l'État, d'ailleurs. Ce qu'il faut, c'est inciter le mécénat. Aujourd'hui, les entreprises dépensent 400 millions de francs par an pour aider la culture en France. Il faut doubler ou tripler ce chiffre très rapidement. Plus les entreprises dépenseront d'argent pour le mécénat, et moins l'État sera amené à subventionner n'importe quoi.
On l'a dit, Sabine Rosier, l'idée avec le mécénat est aussi, voire surtout, de donner une nouvelle image de l'entreprise dans un contexte politique lui-même nouveau, celui de l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Ce qui est intéressant avec le cas de la Fondation Cartier, c'est qu'il s'agit de la première fondation dédiée à l'art contemporain. Parce qu'on a mentionné dans d'autres archives, notamment Louis Vuitton, mais là c'était l'opéra et la musique de façon générale, la FNAC, Philippe Maurice, la SNCF, se tournent aussi vers le mécénat, mais plutôt musical. Et en 1982, Jacques Lang lance le réseau des fonds régionaux d'art contemporain, les FRAC. Donc c'est pas forcément un hasard finalement si la Fondation Cartier se tourne vers l'art contemporain. Il y a vraiment cette idée, et que je trouve assez fondamentale pour comprendre aussi ces liens entre politique et patronat, il y a cette idée de parler un même langage, qu'il y a aussi une réforme de rémunération politique, de se dire les entreprises vont s'intéresser à ce qui intéresse l'élite politique du pays. À ce moment-là, ça fait partie aussi de la rationalité de ce comportement-là, Sabine Rosier.
Oui, les dirigeants d'entreprise vont choisir de s'investir dans des niches culturelles qui sont susceptibles de complaire au pouvoir politique. Et donc, tout ce qui relève de ce qu'en France on appelle la haute culture, l'opéra, l'art lyrique, les musées nationaux, les grandes scènes dramatiques nationales, vont être particulièrement prisés par les dirigeants. Mais vous remarquerez que ce sont des causes qui sont très consensuelles. C'est-à-dire, le spectacle vivant, par exemple, qui est un lieu dans lequel une voix dissidente, une voix critique peut se faire entendre, sera toujours moins prisée par les dirigeants d'entreprise que ces terrains beaucoup plus tranquilles, disons, moins politiquement risqués que sont la grande musique, les musées ou les monuments historiques, par exemple.
Qui, de fait, ont un discours peut-être plus contrôlable, ouais. on va le dire comme ça. Mais pourtant, je croyais que Jacques Rigaud avait pour ambition de prouver que le mécénat n'était pas réservé à une élite, que toutes les entreprises pouvaient s'y intéresser. Est-ce qu'il y avait une petite contradiction avec le fait de justement parler un langage d'une élite culturelle ou politique ?
Oui, tout à fait. C'était un homme qui était très soucieux de faire du mécénat un élément qui puisse être à la portée de toutes les entreprises. Il a beaucoup milité localement pour que des TPE et des PME puissent se saisir de ce dispositif. Il a d'ailleurs milité pour qu'il y ait une diversification des véhicules juridiques, des types de fondations qui puissent être à la disposition des entreprises pour se lancer dans l'aventure. Il a essayé de démocratiser effectivement cette forme d'engagement entrepreneurial, et on peut dire qu'il y est en partie parvenu.
Arthur Gauthier, alors vous souhaitez réagir et puis j'ai une autre question aussi, c'est que finalement on a un peu envie de se demander si ça fonctionne cette histoire. Il y a à la fois cette idée non seulement de se positionner dans une forme de cercle, en tout cas de discussion, de sociabilité, etc. Et puis il y a la mention de ce fameux rapport de 785 pages. Il y a tout de même des ambitions, ce n'est pas juste positionner son entreprise, il y a une ambition de politique culturelle, on pourrait le dire.
Oui, je voulais juste, merci, je voulais juste réagir sur le fait que, en parallèle de tous les grands hommes qu'on a cités, Monsieur Perrin parlait de lui-même, de Rigaud, de Léotard, etc. Il y a aussi tous les anonymes, tous les acteurs de terrain qui ont essayé justement de traduire en acte finalement ce dialogue entre l'économie et la culture qu'on voulait réconcilier à l'époque. Et donc, je voulais simplement rendre hommage à tous les anonymes, et tous les hommes et surtout les femmes qui étaient à la manette, oui. À pied d'œuvre, pour finalement faire en sorte que ce rapprochement soit le plus efficace et utile possible aussi aux acteurs culturels et associatifs. Voilà, c'est simplement ça le petit ajout. Et oui, pour revenir au rapport de 1986 ou 87, je crois, je pense que... c'était le point de départ de changements dans la loi française qui ont quand même marqué les grandes étapes du développement du mécénat. C'est vrai qu'en France, j'ai l'impression que voilà, pour que les choses se développent dans ce domaine-là, il faut des lois. Et donc la loi de 87 relative en fait au mécénat et à la philanthropie plus largement va apporter va définir d'ailleurs pour la première fois dans la loi ce qu'est une fondation, hein, ce qui n'était pas vraiment défini jusqu'à présent, et va apporter des précisions et des incitations supplémentaires pour les mécènes. Et on le verra, ça sera le début d'une succession de lois. Je pense à la loi de 1990 sur les fondations d'entreprises. On reviendra sur la loi Yagon en 2003, la loi sur les fonds de dotation en 2008. Une succession de lois comme ça qui vont peut-être sécuriser la pratique du mécénat et encourager davantage d'entreprises de s'y mettre, puisque ça va devenir encouragé officiellement, reconnu par la loi et stabilisé, je dirais, dans le temps.
Oui, parce qu'on s'en rend pas forcément compte, mais il y a une forme d'illégalité aussi. C'est ce que dit un article très intéressant sur justement les origines de la Fondation Cartier qui a été publié dans Le Monde en octobre 2024. Alain-Dominique Perrin le dit. Il dit jusque-là, on avait été hors la loi. Pendant 3 ans, Cartier avait en effet intégré ce que lui coûtait la Fondation à son budget publicité, alors que cette activité ne figurait pas dans son objet social, au risque d'essuyer un sévère redressement de la part de Bercy. Est-ce que, de fait, il y a une forme de dissension entre les ministères? Est-ce que Bercy n'arrive pas vraiment à comprendre quel cet objet nouveau qui, par ailleurs, va finir par coûter assez cher, puisqu'il y a cette politique fiscale qui est engagée. Et au contraire, il y a une forme de d'encouragement, voire même d'incitation de la part du ministère de la Culture. Est-ce qu'il y a une forme de tension à ce niveau-là, Sabine Rosier?
Oui, il y a une très forte tension dans les années 80 et 90. Bercy, qui à l'époque était rue de Rivoli, donc on va dire Rivoli, le ministère de l'Économie et des Finances, et surtout le ministère du Budget, était extrêmement réticent à se priver de recettes fiscales précieuses et se disait, mais si on augmente considérablement la défiscalisation promise aux entreprises, on risque d'ouvrir la boîte de Pandore de demandes similaires. Et la rue de Rivoli a freiné des quatre fers, contre le ministère de la Culture, pour limiter au maximum les dégrèvements fiscaux dont pouvaient bénéficier à la fois les particuliers et les entreprises. Et ce n'est que très tardivement, notamment en 2003, donc on est sous Chirac, c'est Alain Lambert qui est ministre du Budget et qui va être l'artisan, avec son collègue de la Culture, Jean-Louis Ayagon, d'une nouvelle loi qui va rattraper en quelque sorte le retard fiscal dont pâtissait la France en matière de mécénat, puisque des avantages fiscaux sans précédent vont être désormais offerts aux particuliers et aux entreprises. 66% de réduction fiscale pour les particuliers, dans un certain montant, et 60% de réduction pour les entreprises. C'est considérable. Et le discours de déploration qu'on entendait depuis 20 ans sur le fameux retard de la France en matière de mécénat a pu, à ce moment-là, être rattrapé. Mais il a fallu surmonter, effectivement, les préventions de Bercy.
Alors Sabine Rosier, vous le disiez, tout ce mouvement de croissance finalement et puis de légitimation aussi de ce qu'est le mécénat d'entreprise aboutit à cette fameuse loi Ayagon de 2003 qui dote la France d'une des législations les plus attractives au monde en termes d'incitation fiscale. Une nouvelle phase débute alors, celle de la légitimité accrue mais aussi de la prise de conscience de certains risques, notamment de dépendance vis-à-vis de cette manne financière administrée selon l'intérêt du privé.
Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, 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 all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Please hide me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. He said, go to the devil. All on that day.
Cinnamon de Nina Simone, bande originale emblématique du film L'affaire Thomas Crown, soit une des mises en scène les plus connues des musées au cinéma. Vous êtes bien à l'écoute de France Culture et nous nous demandons aujourd'hui pourquoi les entreprises sont-elles devenues des mécènes et s'il s'agit là d'argent rationnellement employé. Or, ce comportement est aussi le fruit de certains encouragements institutionnels et politiques, nous l'avons vu, mais aussi fiscaux et à plus forte raison depuis la fameuse loi Ayagon de 2003 du nom du ministre de la Culture de l'époque, Jean-Jacques Ayagon, qui rappelait justement l'esprit de sa loi au micro de France Culture, c'était en 2011.
Cette loi n'était pas une manière de justifier les engagements de l'État et des collectivités, des autres collectivités publiques. Ce qu'il s'agissait de faire, c'est tout d'abord de donner une base juridique solide à la pratique du mécénat. Jusqu'alors, les actes de mécénat, notamment des entreprises, étaient souvent requalifiés d'abus de biens sociaux par le fisc, qui estimait qu'il n'entrait pas dans l'objet social des sociétés que de pratiquer du mécénat en faveur de la culture ou du sport ou d'une autre action philanthropique. Donc il fallait bien marquer que le mécénat était légitime, qu'il répondait à un objectif d'intérêt général. Deuxièmement, ce qu'il s'agissait de faire, c'était de mettre en place un dispositif d'incitation fiscale de façon à donner encore plus envie aux entreprises et aux particuliers de pratiquer le mécénat, en tout cas à ceux qui sont assujettis aux impôts concernés.
Sabine Rosier, on en revient à l'éternelle question à la fois de la rationalité des entreprises, mais cette fois-ci qui se comprend un peu plus à partir du moment où il y a incitation fiscale et donc avantage en monnaie quasiment sonnante et trébuchante, mais aussi la rationalité de l'État qui encourage très clairement, qui incite à avoir recours à ce mécénat via la structure de l'entreprise. On a envie de se demander déjà dans un premier temps pourquoi l'État a levé à ce point toutes les réticences qu'il avait, on en parlait au 19e siècle, et surtout, et c'est un point sur lequel il faut insister, je pense, Sabine Rosier, est-ce que cette incitation-là est synonyme de désengagement de la part de l'État vis-à-vis notamment des institutions culturelles ?
Alors sur le premier aspect de la question, pourquoi l'État s'est lancé dans une générosité fiscale aussi étonnante hein, au regard du parcours qu'a suivi le cadre fiscal du mécénat. Eh bien, il faut écouter Alain Lambert. Quand il était ministre du budget, ses services se sont dit, mais finalement, si on accroît considérablement les dégrèvements fiscaux des entreprises, peut-être que ces entreprises exigeront de leurs donataires, les associations auxquelles elles font des dons, davantage d'efficacité et d'efficience. Et le ministère du budget s'est dit, mais finalement, ce qu'on risque de perdre d'un côté, on pourrait peut-être le récupérer d'un autre côté, en ayant des associations qui soient moins gourmands en subventions publiques. Et donc, il y avait une forme de rationalité budgétaire.
C'est énorme. Enfin, c'est quand même très chargé de conséquences. Ça veut tout de même ça implique tout de même que des entreprises aient un droit de regard sur l'organisation, notamment budgétaire, de certaines associations ou institutions.
L'ambition du ministère du budget ne s'est pas réalisée parce que le mécénat en France est beaucoup moins stratégique. On en reparlera peut-être tout à l'heure, et beaucoup moins stratégique qu'il ne l'est en Amérique du Nord. Les entreprises sont beaucoup moins exigeantes en matière de retour sur investissement que ne le sont certaines grandes entreprises nord-américaines. Donc on peut, je ne sais pas si les ambitions des services fiscaux du ministère du budget ont été atteintes, probablement pas. Mais ça faisait partie en fait des idées initiales. Après, sur les questions, le second aspect de la question.
Je veux savoir si inciter, c'est renoncer aussi à quelque part, et c'est se désengager des formes de soutien, et notamment financier, aux institutions culturelles de la part de l'État. On pourrait se le dire.
On pourrait légitimement se poser les questions. Alors, il est certain que du côté du ministère de la Culture, des pressions très fortes ont été exercées sur les opérateurs nationaux culturels pour les inciter à avoir une meilleure gestion de leurs établissements, à introduire des critères de rentabilité beaucoup plus fortes. Donc il y avait probablement ce souci-là, effectivement, du côté de l'État.
Arthur Gauthier, sur cette question de la recherche de rentabilité, potentiellement de retour sur investissement, cette comparaison avec les États-Unis, entre autres, nous dit qu'effectivement, il y a une forme de presque de don percé, de don gratuit. Effectivement, il y avait vraiment cette logique de « on donne et ensuite on ne regarde pas vraiment où part l'argent ». Est-ce que c'est ça qui caractérise le mécénat d'entreprise français?
Pas exactement. Je dirais que c'est certain que les exigences de reporting, notamment il y a une vingtaine d'années, étaient beaucoup moins prégnantes qu'aujourd'hui, dans un cadre où on y reviendra peut-être. Les entreprises doivent reporter sur leur performance non financière de manière plus développée qu'il y a une vingtaine d'années. Mais je voulais simplement revenir sur la comparaison internationale. C'est vrai que c'est intéressant de se dire, et au-delà de la France, une enquête vraiment passionnante de l'OCDE et du Centre en philanthropie de l'Université de Genève en 2020 a montré que sur une quarantaine de pays de l'OCDE, quasiment tous avaient mis en place des systèmes d'incitation et de fiscalité favorables à la philanthropie, à la fois pour les donateurs, mais aussi pour les organisations qui bénéficient des dons, par exemple des exonérations d'impôts commerciaux, pour les associations en particulier. Mais si on en revient aux donateurs, en fait, ce qui caractérise la France, c'est pas tant d'avoir un système de réduction d'impôts, puisque ça, de très nombreux pays l'ont. En fait, le système où on réduit une partie de son impôt, c'est minoritaire, mais c'est quand même, il y a une dizaine de pays qui le pratiquent. La plupart des pays pratiquent un système de réduction de l'assiette taxable, qui est un peu différent. Mais c'est vrai que les taux de réduction qui ont été instaurées en 2003 sont particulièrement élevées quand on compare avec d'autres pays de l'OCDE. Et c'est vrai que c'est cette spécificité française qui étonne, même si, là encore, quasiment tous les pays de l'OCDE ont mis en place des systèmes depuis une trentaine d'années. Et je pense que ça nous dit des choses aussi sur l'idéologie ou l'état d'esprit, finalement, de tous ces gouvernements contemporains, où finalement le rôle de l'acteur privé est encouragé, valorisé, en complément, voire parfois en remplacement de l'action publique. C'est quelque chose de général. La France n'y échappe pas, mais elle n'est pas seule dans ce cas de figure.
En complément ou en remplacement de l'action publique, mais pas nécessairement que de l'action publique, aussi de son budget potentiellement, puisqu'on voit que ce sont souvent, et on l'a dit en début d'émission, ce sont souvent des budgets qui sont réduits, et aujourd'hui particulièrement. Arthur Gauthier, on parlait de cette fameuse loi de 2003, et on a aussi dit qu'aujourd'hui les TPE et PME représentent 97% des entreprises mécènes. Est-ce qu'on peut faire un lien de causalité directe? Est-ce que c'est parce qu'on a particulièrement encouragé qu'au final, de plus en plus d'entreprises se sont senties capables ou suffisamment soutenues pour se lancer dans ce mécénat? Est-ce que ça aussi, c'est une spécificité française que de ne pas avoir que de très grandes entreprises qui s'adressent uniquement à de très grandes institutions? Est-ce que ce maillage plus petit et potentiellement plus territorial fait partie aussi des réussites de cette loi de 2003?
Je dirais que c'est une deuxième phase en fait qui s'est ouverte, puisqu'on l'a rappelé au début de l'émission, la première phase de développement du mécénat, c'était vraiment centré autour des grands groupes, des multinationales qui s'implantent en France ou des grandes entreprises du CAC 40. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a saturation de ce segment de marché. Je crois que sur les entreprises du CAC 40 aujourd'hui, 38 doivent avoir leur propre fondation. Le relais de croissance du mécénat, finalement, on le trouve plutôt dans les entreprises de taille plus modeste, et notamment en lien avec les territoires. Et je pense qu'il y a aussi des réussites locales qui inspirent. Je pense par exemple, on a parlé de la culture légitime. Je pense par exemple au Festival des Eurocaines de Belfort, dans le territoire du Belfortin, qui depuis 1990 a un club de mécènes et qui a réussi à attirer, à fédérer autour de l'événement finalement un grand nombre de petites et moyennes entreprises du territoire, Grand Est, qui sont devenues des mécènes au long cours, plus d'une centaine d'entreprises. Et ils ont simplement aujourd'hui des mécènes nationaux qui viennent compléter ça, mais ça s'est vraiment fait dans le contact local avec les entreprises et en lien aussi, il faut le dire, avec les dirigeants politiques du territoire.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que vous nous parlez là d'un événement qui a une portée nationale, finalement, tout le monde. Beaucoup
maintenant,
de gens.
Oui, pas
maintenant,
au début.
Oui, mais on voit bien, encore une fois, la rémunération en termes de réputation que peuvent attendre les entreprises, qu'elles soient de très grande taille ou au contraire à l'échelle locale. Sabine Rosier, est-ce qu'il n'y a pas là une difficulté aussi majeure avec cet enjeu de la rémunération par la réputation et par le prestige aussi, de se dire que les plus petits projets n'auront soit pas les moyens administratifs parce que c'est du temps et au fur et à mesure que le mécénat se professionnalise, il faut des équipes dédiées, il faut des gens qui ont une stratégie spécifique. Donc c'est du temps, c'est de l'énergie, ce sont des compétences que n'ont pas forcément les petites structures locales qui ne peuvent par ailleurs pas offrir cette rémunération-là. Est-ce que c'est un problème qui se pose aujourd'hui ?
Vous avez tout à fait raison. Effectivement, il y a de très grandes inégalités entre les petites associations de quartier qui vont peut-être s'adresser à la TPE, au commerce local pour obtenir quelques subsides. Et puis, de l'autre côté, les grands opérateurs nationaux, par exemple dans le champ culturel, ils disposent de services de recherche de fonds, de services de mécénat, ils savent parler le langage des entreprises. Il y a une expertise extrêmement importante depuis une vingtaine d'années dans ces musées, dans ces monuments historiques, dans ces opéras, qui leur permet d'aller glaner l'argent des entreprises de façon beaucoup plus efficace que les toutes petites structures. Et on pourrait dire que vous connaissez l'adage « on ne prête qu'aux riches », et bien en matière de mécénat, ça se vérifie. Le mécénat va surtout aux grands opérateurs culturels qui sont susceptibles d'offrir des contreparties intéressantes. Alors ces contreparties, c'est quoi ? C'est de la billetterie, c'est des visites guidées avec le conservateur qui sacrifie une demi-journée pour accompagner des cadres de l'entreprise dans les salles du musée. C'est de la privatisation d'espace. Vous imaginez bien qu'une petite association de quartier n'a pas la possibilité d'offrir des contreparties aussi intéressantes. Donc, il y a de très grandes inégalités qui sont creusées paradoxalement par le mécénat.
On est beaucoup resté sur le secteur culturel, puisque finalement c'est de là que tout est parti dans les années 80. Mais le tournant des années 2000, il n'est pas seulement fiscal, il n'est pas seulement aussi en termes de professionnalisation de ce que représente le mécénat, c'est aussi en termes d'objet même de ce mécénat. Et là, il y a un tournant majeur qu'il faut évoquer et qui participe à un autre mouvement dont on va parler juste après. Mais Arthur Gauthier, est-ce qu'on peut dire que effectivement les années 2000-2010 voient l'objet de mécénat s'étendre, se diversifier, que finalement ce n'est plus que la culture qui compte? Et de la même façon que c'était la culture dans les années 80, parce que ça parlait aux hommes et aux femmes politiques et à une certaine élite. Aujourd'hui, dans les années 2000, 2010 et même 2020, ce sont d'autres sujets qu'il faut mettre en avant pour bénéficier de cette image respectable lorsqu'on est une entreprise.
Oui, c'est vrai, ça a commencé même un peu avant, dans les années 90, avec certaines entreprises pionnières, comme AXA, dirigée par Claude Bébéard à l'époque, qui se disaient « le mécénat, ça ne doit pas être que de la culture, il faut aussi que ça parle au quotidien de nos salariés et que ça parle aussi aux causes qui touchent les salariés comme étant des Françaises et des Français comme les autres. » Et donc l'idée que le mécénat devait intervenir aussi dans tous les champs de l'intérêt général se développe beaucoup dans ces années 90-2000. En effet, il y a certains événements nationaux qui vont marquer un tournant. Je pense par exemple à la crise des banlieues de 2005 qui va entre guillemets forcer certaines entreprises très présentes dans ces territoires-là de s'engager davantage. Et elles le font notamment par le mécénat. Pas seulement, mais notamment, parce que le mécénat, c'est une façon finalement pour les entreprises de pouvoir se connecter à leur environnement immédiat. Et donc, on parlait des petites associations de terrain. Moi, je pense quand même que les enjeux, les problématiques très locales, par exemple le dynamisme économique ou l'attractivité d'un territoire, peut fédérer les entreprises, les associations et les élus locaux. Si c'est fait de manière intelligente, ça peut justement développer sur déboucher sur des activités nouvelles qui n'existaient pas auparavant. Donc je pense qu'il y a ce tournant social dans les années 2000. Et puis on a aussi tout le développement de ce qu'on va appeler le mécénat de compétences, qui va plutôt être autour de l'engagement volontaire des salariés sur leur temps de travail en général, encadré par l'entreprise qui va mettre en relation les salariés avec des associations qui ont des besoins ponctuels ou pérennes de compétences diverses et variées. Et donc, c'est aussi, les années 2010, le développement de ce mécénat non financier, finalement, qui ne va pas faire l'objet d'un don, mais d'une mise à disposition du temps de personnel plutôt qualifié dans les entreprises au profit des associations. Encore faut-il que les besoins des associations soient finalement...
Identifié
et puis correspondre aux compétences que peut apporter l'entreprise.
Et on voit tout de même la forme de rétribution, et c'est ce qu'on évoquait en tout début d'émission, cette idée de redonner du sens aussi au travail et donc d'être attractif pour de potentiels recrues. Ce qu'on remarque tout de même, c'est qu'il y a une forme de diversification donc des causes. On aurait pu aussi évoquer l'idée que la RSE prend aussi une importance particulière au sein des entreprises. Et il y a aussi différents véhicules, enfin en tout cas des nouveaux véhicules pour favoriser ce mécénat qui se met en place sur la base de cette fiscalité particulièrement arrangeante. Et on observe de fait une explosion, enfin en tout cas une très forte augmentation du nombre de fondations. Alors là, il faut nous expliquer aussi, Arthur Gauthier ou Sabine Rosier, Arthur Gauthier, sur ce que représentent ces fondations. Auparavant, comment ça se passait? Est-ce que c'était quasiment de gré à gré? Et pourquoi ces véhicules-là que sont les fondations se sont multipliés à ce point?
Effectivement, si on reprend un peu le fil historique, la plupart des entreprises faisaient ce qu'on appelle du don en direct. Elles faisaient un chèque pour l'Opéra National de Paris ou pour telle association. Et on en restait là. C'était parfois des financements réguliers, mais il n'y avait pas cette espèce d'assise que peut représenter une fondation. Et justement, des personnes comme Jacques Rigaud et Alain-Dominique Perrin ont vite compris que, au-delà de l'incitation fiscale, le fait d'avoir des outils juridiques qui soit légitime, qui soit pérenne dans le temps, pouvait être très utile pour le développement du mécénat d'entreprise. Alors, les fondations, elles existaient déjà, elles avaient une existence de plusieurs siècles, mais c'est vraiment en 1987 que l'objet juridique fondation est défini dans la loi. Et à partir de 1990, on crée ce statut spécifique de fondation d'entreprise qui va beaucoup faciliter la tâche des dirigeants d'entreprise qui veulent faire du mécénat, puisque jusqu'à présent, l'État français s'opposait formellement à ce qu'une entreprise mette sa marque, son nom, dans une fondation qui devait être et qui est toujours aujourd'hui un objet d'intérêt général uniquement. Donc il y a eu ce combat finalement pour faire reconnaître le droit aux entreprises de pouvoir aussi créer et administrer des fondations. Effectivement, aujourd'hui, on a sur tout le territoire français plus de 5500 fondations et fondations. Ils étaient moins de 1000, je crois, au début du siècle. Donc on a eu une multiplication par 5 en l'espace de 25 ans, dont les entreprises, mais pas seulement. Il y a aussi des particuliers qui ont lancé leur fondation.
Et de fait, selon les chiffres de l'Observatoire de la philanthropie, des chiffres qui portent donc sur l'année 2023, la France compte 3000 fondations en activité, 5000, un peu plus de 5000 au total et 3000 vraiment en activité. C'est une augmentation effectivement de 40% en 10 ans, donc c'est quand même assez dynamique. Certes, ça peut arranger les entreprises. Le problème, évidemment, c'est qu'en novembre 2018, la Cour des comptes a publié un rapport pour faire le bilan, non seulement de la loi de 2003, mais aussi cette idée de pouvoir donner son nom à une fondation. Par ailleurs, la multiplication des causes, on va dire, toutes les causes qui impliquent de fait une forme de mécénat d'entreprise qui se sont largement diversifiées. On l'a vu, tout cela apporte du flou au flou et la multiplication des intermédiaires apporte aussi une forme de soupçon de dérive et donc d'optimisation fiscale. Ça a notamment été le cas pour la fondation Louis Vuitton, dont les coûts ont brusquement explosé. On n'a pas tellement compris d'où venait cette explosion-là. Sabine Rosier, est-ce que vous estimez qu'il y a suffisamment de régulation, de garde-fous? Est-ce que c'est une question qui, là encore, anime quelque part les relations entre patrons d'entreprise et politique et qui est aujourd'hui particulièrement conflictuelle, cette question de l'optimisation fiscale?
Régulation probablement pas assez, effectivement. Alors, au-delà de la question de l'usage des fondations à des fins d'optimisation fiscale, qu'on observe, je dirais, plutôt aux États-Unis avec ce véhicule qui est la LLC, qui est une forme de fondation entreprise, pourrait-on dire, qui permet d'optimiser fiscalement ses dons et puis surtout d'éviter que le regard du citoyen ne puisse questionner les conditions de ventilation des fonds. En France, effectivement, il y a quelques très rares cas de dérive fiscale dans l'usage des fondations. Mais la critique qu'on peut adresser aux fondations, c'est plutôt le fait qu'elles sont assez peu transparentes sur les conditions de gestion des fonds. parce qu'une fondation, c'est une réunion de capitaux, et c'est le conseil d'administration de la fondation qui décide, dans une sorte d'entre-soi, alors parfois éclairé par des comités d'experts, de décider de l'allocation des fonds. Mais le citoyen, qui pourrait légitimement prétendre avoir un droit de regard sur les conditions de ventilation des fonds, parce que la collectivité nationale finance quand même à peu près les deux tiers des dépenses des entreprises, ce citoyen n'a pas du tout de droit de regard. Donc, peu de transparence, peu de concertation aussi avec les acteurs locaux. Effectivement, on l'évoquait tout à l'heure, les TPE et les PME s'engagent de plus en plus, notamment sous l'effet des encouragements des collectivités territoriales qui créent des fondations territoriales. Donc ces TPE et ces PME s'engagent dans du mécénat local et elles sont souvent attentives aux besoins locaux parce qu'elles sont en prise directe avec les réalités d'un territoire. Mais c'est beaucoup moins le cas pour les grandes fondations ou les fondations de taille intermédiaire qui jouent trop peu encore le jeu de la concertation. Et enfin, il est quand même très intriguant de voir que ces fondations qui exigent de leurs partenaires des comptes en matière d'usage des fonds qui y sont alloués, n'aient pas elles-mêmes des comptes à rendre à la fois aux citoyens, aux contribuables et à leurs donataires.
Et on voit que cette question de la transparence donc est devenue fondamentale dans ce que représente le mécénat d'entreprise aujourd'hui. Merci infiniment à tous les deux, Arthur Gauthier et Sabine Rosier, d'avoir participé à cette émission.
Merci.